Alors chaque semaine, j'essaye de passer à autre chose et chaque semaine, je trouve un verset sur les mystères. Et donc, nous allons voir un autre mystère du Nouveau Testament qui se trouve en Romains chapitre 11 et au verset 25. Romains chapitre 11, verset 25, nous allons voir un autre mystère qui nous est révélé par le Saint-Esprit. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Ce mystère, ce soir, c'est donc le mystère de la destinée d'Israël. Nous apprenons ici que ce mystère, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, s'est endurcie, jusqu'à ce que tous les païens, tous les non-juifs, soient entrés. Et c'est effectivement ce qu'on trouve aujourd'hui, depuis que le Seigneur est ressuscité. Il y a des Juifs qui croient en Jésus comme leur Messie, mais il y en a peu. La majorité des Juifs ont rejeté ou rejettent Jésus et sont dans un endurcissement particulier. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul dit qu'il y a un voile lorsqu'ils lisent la loi, la Torah, il y a un voile. Et ce voile, c'est qu'ils ne veulent pas se convertir, ils ne veulent pas reconnaître Jésus. Et donc, les Écritures, pour eux, sont fermées. D'ailleurs, ils étudient plus le Talmud et les interprétations rabbiniques que l'Écriture elle-même. Ils font la lecture le jour du Shabbat à la synagogue. Ils lisent la Torah, mais ils l'interprètent très peu, ils l'étudient très peu en elle-même. Ils étudient les commentaires et les commentaires des commentaires. Et donc, ce que dit ce verset est vrai depuis plusieurs siècles, mais il y a un jour où la totalité des païens sera rentrée, et alors, à ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Alors, qu'est-ce que c'est ce moment dans la destinée d'Israël? Eh bien, c'est lié au retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ sonnera la fin de l'état des choses actuelles. Pour l'instant, les choses avancent avec les nations qui piétinent Jérusalem, avec le temple qui ne peut pas être reconstruit, avec Israël qui a perdu son témoignage, parce que pendant tout l'Ancien Testament, Israël était le témoin de Dieu. Et aujourd'hui, Israël est un témoin bien plus faible, parce que il ne croit pas au Messie. Mais un jour, le jour du retour de Christ, les choses vont changer. Lorsqu'on étudie le retour de Christ dans la Bible, on découvre qu'il vient pour trois catégories de personnes. Christ reviendra premièrement pour l'Église, ses enfants, ses frères. Et il viendra enlever l'Église. C'est son premier acte du retour de Jésus-Christ. Le deuxième acte, c'est qu'il va juger le monde, il reviendra sauver Israël, son peuple. Donc il va sauver Israël. Et troisième acte de son retour, il va juger les nations impies, ceux qui vont s'attaquer à Israël, notamment les armées de l'Antéchrist. Et donc le retour de Christ a trois éléments et il ne faut pas négliger les trois. Ce qui s'est passé très tôt dans l'histoire de l'Église, c'est que les théologiens, les pères latins, comme on les appelle, ont déclaré qu'Israël était rejeté pour toujours, que l'Église avait remplacé Israël. Avant, il y avait Israël comme peuple de Dieu, et maintenant c'est l'Église, et quand ils disent l'Église, ils veulent dire les non-juifs. Et qu'Israël, désormais, n'a plus de rôle dans l'histoire, il est complètement mis de côté, et même il disait à cette époque que les Juifs étaient déicides, ils avaient tué Dieu, comme si on pouvait tuer Dieu. En fait, il voulait parler du Seigneur Jésus. Et à cause de ces enseignements, les églises chrétiennes et puis catholiques sont devenues plutôt antisémites. Lorsque la réforme protestante est arrivée au XVIe siècle, Luther était plein d'allant vers le peuple juif. Il y avait beaucoup de juifs en Allemagne à cette époque-là. Et tout de suite, il s'est précipité pour leur annoncer la justification par la foi, tous ceux qui connaissaient. Et il a été assez mal accueilli. Les juifs ont dit, mais on connaît tout ça, ça ne nous intéresse pas. Toi, tu es chrétien, nous, on est juifs. Et Luther a été très vexé. Et il a déclaré ensuite que les juifs étaient aussi les ennemis des hommes. Et il est devenu lui-même antisémite. C'est un peu ce qui est arrivé aussi avant à Mohammed, le prophète des musulmans, qui, dès qu'il a reçu cette révélation d'un ange, est allé partager cette révélation avec ses voisins, avec tout le monde, et notamment il y avait des tribus juives en Arabie Saoudite, et il est allé leur dire « Je suis l'envoyé d'Allah pour vous annoncer le message final de la fin des temps ». Et les juifs se sont moqués de lui, l'ont rejeté, ont dit « Mais tu délires ». Nous avons la Bible, il n'y a pas d'autre messager qui doit venir. Et Mahomet s'est fâché et il a commencé à haïr les Juifs. Au début, il priait vers Jérusalem et il a dit « Désormais, nous allons prier vers la Mecque ». Et il a commencé à même tuer des Juifs, à faire des razzias contre des tribus juives d'Arabie Saoudite. Et ça ressort très bien dans le Coran. Et aujourd'hui, dans la plupart des pays musulmans, il y a un antisémitisme même inimaginable chez nous. Quand quelqu'un fait une allusion à la Shoah ou il est immédiatement attaqué en justice, si vous entendiez ce qui est dit dans les pays musulmans, mais c'est même plus d'attaquer en justice, c'est incroyable ce qu'ils peuvent dire au sujet des Juifs. Ici, l'apôtre Paul dit « Une partie d'Israël est tombée jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Il y a un jour fixé par Dieu qui s'appelle le jour de la résurrection, où Dieu va mettre fin à notre dispensation de l'Église et il va dire « Voilà, la dernière âme s'est convertie à l'heure dite et maintenant je vais enlever l'Église. » On lit ça, et beaucoup parmi vous le connaissent, mais c'est bien de le relire. On a 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. » Donc, vous voyez, le retour de Christ dans sa première phase. Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Nous voyons que cette première phase du retour de Christ est particulière parce qu'il ne faut pas la confondre avec la deuxième phase lorsque Christ descend sur la terre et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Là, il reste dans les airs et il attire à lui tous les chrétiens de tous les temps, les morts et les vivants sont ressuscités. C'est le jour de la résurrection. C'est le moment où la totalité des païens sera entré dans l'Église et ça sonnera une nouvelle ère. À ce moment-là, Israël reprendra les devants de la scène. À ce moment-là, il va se passer des choses dans le cœur des Juifs à cause des événements qui vont se précipiter, qu'on appelle la grande tribulation. Quand l'Église sera partie, il n'y aura plus d'évangile prêché puisque tous les vrais chrétiens seront au ciel. Qui va prêcher l'évangile? Vous êtes-vous jamais posé la question? Et c'est très probablement des juifs convertis qui vont commencer à prêcher l'évangile et puis des païens qui vont lire les témoignages des chrétiens, qui vont lire des livres, qui vont dire, tiens, il y en a un, il a parlé d'un enlèvement, effectivement, moi, tous mes amis ont disparu. Par contre, je pense qu'un certain nombre de chrétiens dans les églises qui ne seront pas enlevés parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, tout simplement, hein, parce qu'ils ne sont pas des vrais chrétiens, vont continuer leur église, mais totalement dans l'apostasie, c'est-à-dire, ils vont dire, ben, on ne sait pas où ils sont passés, c'était peut-être des traîtres, nous sommes la vraie église, et l'église mondiale va tomber dans une apostasie, une erreur, une séduction, pire que tout ce qu'on peut imaginer. Et le peuple juif va redevenir le peuple du témoignage, et Israël redeviendra le centre du monde. Mais ce sera une période terrible. En Romains 11, 26, il dit « Ainsi tout Israël sera sauvé ». Alors, c'est vraiment quelque chose de magnifique de lire cette phrase. Mais avant ça, il va se passer un certain nombre de choses terribles pour Israël. C'est ce que Jérémie appelle « le temps d'angoisse pour Jacob ». Si vous lisez Jérémie 30, verset 7... Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Et Jérémie, dans cette prophétie, voyait ce qu'on appelle la grande tribulation, l'époque où le monde sera livré au fléau de Dieu et aussi à un autre jugement qui s'appelle l'Antéchrist. En Apocalypse 12, nous lisons que Satan lui-même va poursuivre Israël de sa haine. Si vous prenez avec moi Apocalypse 12 à partir du verset 13, le dragon, hein, c'est Satan, « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. » Et dans le contexte, il s'agit d'Israël qui a mis au monde le Messie, hein, le Fils c'est le Messie. Il ne s'agit pas de la Vierge Marie, là, pas du tout. Donc le dragon poursuit la femme et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Donc le grand aigle dans la Bible c'est Dieu. Certains ont vu dans ces ailes d'aigle le symbole de l'armée de l'air américaine, pourquoi pas, puisqu'ils ont soutenu Israël depuis longtemps. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, donc un lieu que Dieu a préparé, où elle est nourrie pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alors, qu'est-ce que c'est un temps des temps et la moitié d'un temps? On découvre avec d'autres passages que c'est 3 ans et demi. 3 ans et demi. La moitié de cette fameuse tribulation de 7 ans. Et Israël va être protégé par le Seigneur pendant 3 ans et demi. Daniel, lui, avait annoncé aussi un antéchrist. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Jean écrit 90 ans après Jésus-Christ, mais Daniel, il écrit 600 ans avant Jésus-Christ. Et donc, il y a une énorme différence entre les deux, et pourtant, ils vont exactement dans la même direction. Daniel, chapitre 7, par exemple... Verset 24, les 10 cornes, donc tout ça c'est un symbole à chaque fois, puisque les prophéties sont souvent de la fin des temps sont souvent en symbole, mais ces symboles sont expliqués. Ce n'est pas moi qui est en train d'inventer des interprétations, le texte lui-même souvent les explique. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, vous voyez, donc c'est expliqué, qui s'élèveront de ce 4e royaume-là dont il parle. Un autre roi s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Donc il y aura 10 royaumes, 10 rois tirés de l'Empire romain, hein, de la continuation de l'Empire romain. Et parmi ces 10 rois, il y en a un qui va sortir et il va écraser 3 rois. Il va se mettre au-dessus, il va les écraser. Et à ce moment-là, ce roi-là va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Nous sommes en Daniel 7, 25. Il opprimera les saints du Très-Haut, c'est-à-dire le peuple juif. Et il espérera changer les temps et la loi. et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous remarquez, c'est la même expression que Jean dans l'Apocalypse. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Qui est cette corne, ce roi qui est au-dessus des rois? C'est l'Antéchrist qui va construire son pouvoir en écrasant d'autres royaumes. Hein. Et quand il arrivera au sommet, il va commencer à avoir des paroles arrogantes contre Dieu et à opprimer le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Il y a donc des temps futurs où l'antisémitisme va recommencer à battre son plein dans le monde. Et le prophète Daniel, ici, nous en parle de cette haine contre les Juifs. Mais heureusement, un jour, Dieu arrêtera l'Antéchrist, et c'est le retour de Christ hein, qui arrêtera l'Antéchrist à la fameuse bataille d'Armageddon, lorsque l'Antéchrist aura amené toutes les armées possibles contre Jérusalem, contre cette petite ville. Quand vous voyez Jérusalem, c'est minuscule. Mais il va amener toutes les armées du monde dans la vallée de Megiddo, et là, Christ reviendra. Mais avant qu'il revienne, Zacharie nous dit qu'il y aura beaucoup de morts en Israël. Zacharie, chapitre 12, verset 3. Il dit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » C'est intéressant cette idée d'une pierre pesante qui pèse à tout le monde. Dès aujourd'hui, depuis 1948, en fait, Israël pèse dans les relations internationales. Et pèse pas de son poids, mais pèse de ses problèmes. Les pays arabes autour d'Israël en ont assez qu'il y ait cette nation juive au milieu d'eux. Ils veulent l'exterminer. Le président iranien n'arrête pas d'en parler. Les Syriens n'arrêtent pas d'en parler. Les Égyptiens sont en train de suivre avec leur nouveau gouvernement. Et Israël est au milieu, et il dit tous ceux qui s'attaqueront à Israël hein, seront meurtris par elle. Et nous savons qu'avant tous ces événements, il y aura une guerre israélo-arabe terrible qui touchera Damas, Amman et certainement l'Égypte. Israël va anticiper une attaque globale certainement et va détruire des grandes capitales autour d'elle. Et à ce moment-là, le monde entier va dire « Oh, quel scandale ! Israël a lancé des missiles contre des villes, des capitales arabes. Ça suffit maintenant avec ces Juifs, il faut les éliminer. » Zacharie 12, verset 6 « En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. » Et Jérusalem restera à sa place. Mais, ça c'est le début, mais au chapitre 13, verset 8, « Dans tout le pays, dit l'Éternel, lorsque les armées de l'Antéchrist arriveront, hein, les deux tiers des Juifs seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Et encore, je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, il dira, l'Éternel est mon Dieu. Il y aura une guerre terrible et beaucoup de morts parmi le peuple juif. Et puis finalement, chapitre 14, le jour de l'Éternel arrive, le retour de Christ. Verset 2, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme on combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Ce retour extraordinaire décrit 400 ans avant Jésus-Christ. Par Zacharie. Or, quand Jésus est monté au ciel, il est monté depuis quelle montagne, quelle colline? Le même mont des Oliviers, et les anges ont dit aux apôtres qui restaient la tête en l'air, ne savez-vous pas qu'il reviendra de la même manière qu'il est venu? Donc ses pieds se poseront une autre fois, comme le dit Zacharie. On voit là l'unité des prophéties de la Bible. Hein. Daniel, Zacharie, Matthieu, Apocalypse, tous ces livres convergent vers les mêmes événements. Et tout converge vers Jérusalem, encore une fois. Vous remarquez, Christ reviendra à Jérusalem. Alors quand certaines églises disent que Israël a été rejeté, que désormais c'est l'Église, ils sont obligés de spiritualiser ces prophéties. Un certain nombre d'entre eux sont appelés en théologie des amillénaristes, c'est-à-dire ils ne croient pas que Christ va revenir régner 1000 ans à Jérusalem. Et donc ils disent Jérusalem, en fait, c'est symbolique pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Alors ils trouvent plein d'interprétations, mais ça ne colle pas avec le texte. Surtout que Paul dit lui-même au chapitre 11 de Romains, dont je vous ai lu le verset 8 tout à l'heure, verset 25, au verset 1, il dit « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. » Et plus tard, il dit « L'appel de Dieu est irrévocable en parlant d'Israël. Si Dieu a appelé Israël comme son peuple, ce sera toujours son peuple. Il y aura toujours l'amour de Dieu particulier sur ce peuple. Mais, comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de souffrance. » Mais alors, si je reviens à Romains 11, 26, « Tout Israël sera sauvé. » À quel moment tout Israël sera sauvé? Si vous avez un peu suivi la prophétie de Zacharie, il dit « Deux tiers seront exterminés et un tiers restera. » Et c'est ce tiers qui va se convertir entièrement. Et comment vont-ils se convertir? Il faut lire encore une fois Zacharie, au chapitre 12, verset 10. Zacharie, qui est l'avant-dernier prophète de l'Ancien Testament. Ce fameux verset, si vous ne le connaissez pas par cœur, vous pouvez l'apprendre. « Alors je répandrai sur David, sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Ce jour-là, quand Christ reviendra du ciel, sauver Jérusalem, le tiers restant là verra le Messie, verra Christ, et ils pleureront, ils diront, c'est lui le Messie, c'était lui, et nous l'avons rejeté. Nous l'avons percé, hein, et c'est vraiment l'idée de percer avec des clous. Même si ce ne sont pas les Juifs littéralement qui ont percé Jésus hein, sur la croix, ce sont les Romains. Ce sont quand même les chefs religieux de Jérusalem qui ont dit « crucifie-le » à Pilate. Ils verront celui qu'ils ont percé. Et il tombera sur eux un esprit de grâce et de supplication. Ils seront vraiment touchés par une conviction de péché et ils se convertiront. Parce que en Romains, là, Paul cite Ésaïe 59, verset 20. Quand on ne connaît pas la Bible, on ne s'en rend pas compte, mais quand un juif qui connaît bien la Bible lit le Nouveau Testament, il voit toutes les citations, il y en a des centaines. Hein. Ésaïe 59, verset 20. « Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » C'est Christ, le Rédempteur, qui vient pour Sion, pour Jérusalem, pour Israël, pour ceux qui se convertiront. Attention, Israël ne sera pas sauvé comme ça, plouf. Il faudra que ces Juifs se convertissent, se tournent vers Christ. Mais ce que Dieu sait à l'avance, c'est que tous, ce tiers-là, va se convertir. Dans l'Apocalypse, Jean nous parle de 144 000 hommes juifs, au chapitre 7 et au chapitre 14 de son livre. Et il dit qu'ils seront marqués d'un sceau. 144 000 jeunes hommes vierges des 12 tribus d'Israël. Et donc, dans ces temps-là, on pourra savoir de quelle tribu viennent chaque personne déjà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les Cohen et les Lévis savent qu'ils viennent sans doute des Lévites, mais les autres ont du mal à trouver leur généalogie et dans les 12 tribus. Mais les rabbins font des recherches très exhaustives et ils commencent à trouver des pistes pour dire à quelle tribu les juifs appartiennent. Mais en tout cas, peut-être qu'eux-mêmes ne le sauront pas, c'est Dieu qui sait à quelle tribu ils appartiennent. Et il désignera 12 000 de chaque tribu, 12 000 hommes, qui certainement seront des témoins extraordinaires pendant l'Apocalypse, parce qu'ils seront marqués d'un sceau et ne seront pas frappés par les fléaux. Et ils vont être le témoignage qu'il y a un Dieu, un Créateur, qui envoie les fléaux. Parce que quand un fléau arrive, il y a un tel endoctrinement contre l'existence de Dieu que les gens disent « Ben oui, c'est comme ça, c'est un phénomène naturel ». Alors que Dieu veut parler à travers les fléaux en disant « C'est moi qui vous envoie ça pour vous secouer, pour vous réveiller ». Mais la présence de ces Juifs qui vont être épargnés, et en plus 144 000 jeunes hommes, imaginez 144 000 jeunes hommes vierges remplis du Saint-Esprit, d'origine juive, dans le monde, ça va faire quelque chose, ça va être spectaculaire. Ils vont être les témoins qu'il y a un Dieu qui est en train d'envoyer des jugements. Alors ils font certainement partie de ce reste, de ce Israël qui sera entièrement converti. Pour revenir à aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que lorsque la nation juive a rejeté Jésus, je dis bien la nation parce qu'un certain nombre de juifs ont cru en lui, mais dans son ensemble, la nation a rejeté Jésus, a été l'occasion d'ouvrir la porte aux non-juifs, de faire que nous qui ne sommes pas juifs de naissance, nous puissions entrer dans le peuple de Dieu et avoir les mêmes privilèges que les juifs avaient dans l'Ancien Testament, avoir le Saint-Esprit, être sauvés, faire partie du peuple de Dieu, avoir le sceau de Dieu sur nous. Et Dieu, dans sa sagesse, a utilisé l'éloignement d'Israël pour sauver les non-juifs. Mais Romains 11, 25, ce mystère qu'il nous révèle ici, a un but. Il dit « Je ne veux pas que vous vous regardiez comme sages, vous les non-juifs, qui croyez en Jésus. » Ne dites pas « Oui, nous avons cru en Jésus et regarde ces juifs, ils refusent le Messie. » On ne doit pas du tout avoir cette attitude, parce que c'est dans le plan de Dieu que les choses soient ainsi. Et Dieu aime Israël, et il veut que tous les juifs soient sauvés, il veut que tous les païens soient sauvés, mais il utilise ce rejet d'Israël pour que les non-juifs aient une place de choix dans l'Église. Et on doit au contraire être humble et dire, nous sommes greffés sur l'olivier franc, sur le peuple de Dieu, et nous n'avons pas à nous vanter de quoi que ce soit, je ne suis pas meilleur que les juifs parce que je crois en Jésus. Par contre, nous devons continuer d'annoncer l'évangile aux juifs, de leur dire que Jésus est le Messie. Et certains d'entre eux y croient. Nous avons des témoignages, nous avons même des juifs parmi nous qui ont cru en Jésus le Messie. Il y a des temps difficiles qui arrivent. Nous serons appelés à nous positionner par rapport à Israël. Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, tu seras le père d'un grand nombre de nations et de peuples, et notamment d'Israël. Abraham est le père d'Israël. Et il dit, ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te béniront seront bénis. Et en Matthieu 25, on trouve le parallèle du Nouveau Testament. Un passage qui est très, très mal interprété la plupart du temps. Le jugement des non-juifs, des nations. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc son retour final, pour régner sur la terre, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations, tous les non-juifs, seront assemblés devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et là, ces non-juifs, quand ils entendent ça, vous pouvez entrer dans le millénium, dans le règne du Messie, parce que vous m'avez donné à manger et à boire. Il me dit, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu je ne me rappelle pas que on t'ait donné à manger et à boire. Et Jésus leur répond, verset 40, « En vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. » De qui parle-t-il là ? Du peuple juif. Vous me les avez faites. Les non-juifs de la tribulation seront jugés sur leur attitude envers Israël. Ceux qui auront participé à l'antisémitisme, à la chasse aux juifs, seront les boucs qui seront envoyés en enfer. Ceux qui auront sauvé des juifs, qui auront protégé Israël, entreront dans le millénium, dans le royaume. Ce n'est pas sûr qu'ils soient sauvés finalement. Ce n'est pas une question là de salut de leur âme, mais c'est une question d'entrée dans le royaume, parce que Christ va venir commencer son règne de 1000 ans. Et on voit qu'à la fin de son règne, il y a encore des gens qui se révoltent, donc tout le monde n'est pas sauvé qui entre dans son règne. Tout le monde n'est pas né de nouveau. Mais ceux qui auront gardé Israël seront sauvés de l'enfer immédiat. C'est très important, je pense à notre nation, la France, je pense à notre Église et à nous, chrétiens, comment nous nous comportons avec les Juifs. Lorsque l'antisémitisme va augmenter, comment nous allons nous comporter? Est-ce que nous aurons le courage de prendre position et de peut-être cacher, il faudra cacher des Juifs à ce moment-là, comme pendant la Deuxième Guerre, et soyons des justes, comme les Juifs appellent ceux qui cachent leurs frères. Soyons attentifs aux événements aussi. Nous ne verrons pas l'antéchrist de nos yeux puisque nous serons enlevés avant. Mais avant cet enlèvement qui peut avoir lieu d'un moment à l'autre, nous devons évangéliser parce que après l'enlèvement, ça va être très compliqué. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit qu'il y a un certain nombre, une foule même, qui est sauvée, qui vient de la tribulation. Donc, il y aura des gens sauvés. Mais il y aura tellement d'horreurs, de fléaux, de jugements. Quand vous voyez que les eaux seront empoisonnées, les forêts mondiales seront brûlées, la terre sera un chaos total. Et ceux qui vont se convertir vont certainement mourir très vite parce que l'antéchrist va exiger qu'ils portent la marque et s'ils ne la portent pas, ils seront tués, décapités. Personne n'a envie de vivre ces 3 ans et demi de tribulation. C'est à la fois court dans l'échelle du monde, mais c'est long quand vous êtes dedans. Et Dieu dit qu'il a raccourci ce temps pour les élus. J'aimerais terminer avec une pensée spirituelle pour nous aussi. Je pense à cet esprit de supplication et de grâce. Et je pense à cette pensée de James Stewart que Mike nous a partagé. Dieu ne veut pas qu'on attende la fin des temps pour avoir un esprit de supplication et de grâce. Il y a la prière où on demande des choses et il y a la supplication où on demande avec une ferveur inégalée. Et le Seigneur attend qu'on prie avec cette ferveur. Attention, il ne faut pas tomber dans le paganisme superstitieux qui pense que si on répète 50 fois la prière en pleurant, qu'on va être exaucé. Ce n'est pas ça que veut dire la supplication. La supplication, c'est que vous êtes tout entier dans votre prière. Vous vous engagez vous-même, vous misez vous-même, votre vie, sur cette prière. On peut prier d'une façon détachée. « Seigneur, je te prie pour les peuples, pour les perdus. » Au fond, ça ne nous touche pas plus que ça, ça ne nous aime pas plus que ça. Mais on peut prier pour ces personnes en s'engageant, en étant touché par leur mort, par leur perdition. C'est ça la supplication. Et cet esprit de grâce, Dieu veut nous le donner maintenant. Plus on voit Christ, plus on s'approche de Christ, plus on a cet esprit. Et plus le Seigneur nous remplit et nous utilise. qu'il en soit ainsi et que nous soyons une église fidèle, l'église de Philadelphie dans l'Apocalypse ou l'église fidèle de la fin des temps et non pas l'église de Laodicée qui était tiède et apostate. Merci de votre attention.